bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Léna Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Avec Daniel Morin.
Bonjour Maggie.
Albert Algou.
Bonjour.
Guillermo Guiz. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau.
Salut.
Et notre invité, Hélène Darroze.
Bravo. Bravo.
Merci Hélène de venir à ce micro.
Merci de m'inviter.
Merci
je suis super
mille
heureuse.
Fois. Mais comment vous faites? Mais comment? Vous avez combien de restaurants en tout?
Et alors là, jusque dans quelques semaines, il n'y en a que deux en marche, mais il y a l'originel, on va dire, le restaurant de la rue d'Assas qui est fermé depuis juillet en rénovation, qui va réouvrir. C'est une question de jours, de semaines. Voilà, c'est
courant. C'est pas une fermeture suite à un contrôle d'hygiène. Non, mais juste.
Non, ça va.
Non, le plus gros souci d'ailleurs quand on a un restaurant, c'est le voisinage, c'est l'évacuation des fumées, c'est
les clients.
Ouais, c'est le bruit.
C'est un peu tout, hein, sans rigoler.
On imagine que les produits, les idées, évidemment les clients, la notoriété, c'est important, mais la mécanique même de la machine.
Ah ouais, c'est vrai que c'est des.
On n'en parle pas, ça.
C'est une gestion assez difficile. Bon, moi, je touche du bois, j'ai plutôt un bon rapport avec mes voisins. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention, quoi. Hein.
Faut les inviter régulièrement à dîner.
Exactement. Alors, moi, je leur fais livrer du foie gras régulièrement.
Donc, le vrai bon plan, c'est d'emménager à côté d'un des restaurants de la Rose. Moi, je.
Bon, sauf rue d'Assas, c'est fermé.
Rue d'Assas, ouais, c'est un peu.
Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Joya, c'est ce restaurant qui. Alors là, je sais pas si c'est une forme d'humour ou un signe du ciel. Qui se trouve rue des...
Alors, oui, rue des Jeûneurs.
Rue des Jeûneurs, oui. C'est quand même formidable.
Ouais, sauf que la rue des Jeûneurs...
C'est pas pour le jeûne de ne pas manger.
Pas du tout. Ah, autrefois, sous Napoléon, je crois que c'était la rue des Jeûneurs, parce qu'on y jouait aux boules, etc. C'était la rue où on jouait.
D'accord.
Et de Jeûneurs, c'est passé à Jeûneurs. Donc c'est pour ça, là, on est en train de réfléchir à toute une mécanique, d'essayer de trouver, moi, je suis ouverte à toutes les idées, parce que pour l'instant, on ne le trouve pas.
Pour
un jeu, peut-être d'autrefois, ou un jeu un peu exotique, qu'on mettrait au goût du jour et que sur les after hours autour de cocktails, voilà, on ferait des petits tournois de ce
alors,
jeu.
Alors, tu sais, j'ai oublié le nom, mais c'est un jeu ancestral qui revient à la mode. C'est une espèce de le jeu de quilles suédoise en bois, là.
Ah, mais le Molki.
Oui.
Mais oui, mais on peut pas jouer au Molki. J'ai pensé à ça, parce que je joue ça tout l'été avec mes petites filles.
Tu parles de jeux de boules.
Mais on peut pas jouer à ça dans un restaurant.
Mais on casse tout, on s'en fout.
On fait une piste, bon. Allez. Ok, on va réfléchir.
Alors, petite balade en poney entre les tables.
Ce livre très très dense, hein, c'est le moins qu'on puisse dire,
très
parce
riche.
Que ça commence
riche,
du petit
riche.
Déjeuner, ouais, du petit déjeuner à tard dans la nuit.
Et oui, parce que c'est
au cherche midi, voilà. C'est le principe et le concept. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, je veux savoir si tout le monde connaît bien Hélène Darroze autour de ce micro. Si vous allez dans l'un des restaurants d'Hélène Darroze, vous avez une chance sur trois de quoi?
D'avoir une place.
Non.
D'avoir une...
Non, j'ai du gras de canard.
Non.
L'intoxication alimentaire.
Ça va pas. T'es malade. Non.
De l'avoir.
Oui.
Ouais.
Bah oui.
Trois
restaurants. Et puis surtout, vous vous tenez à être présente, vous tenez à être à chaque fois dans l'un ou dans l'autre.
Bah, je suis arrivée hier soir de Londres. J'y vais à peu près toutes les semaines. Voilà, à raison de 24 à 48 heures, ça dépend. Pratiquement toutes les semaines.
Avez-vous entendu des clients, que ce soit, je sais pas, des personnalités politiques, diplomatiques ou des stars de la musique ou du cinéma se plaindre d'être dans l'un de vos restaurants et de ne pas vous voir? Est-ce que quelqu'un vous a appelé du resto en disant il y a un tel qui est là, il râle parce que il peut pas vous voir?
Non, c'est jamais arrivé. Non. Après, il y a des clients qui réservent en fonction de ça.
De votre passage.
De savoir. Ouais, surtout pour des événements, pour des choses importantes. Voilà, et ils demandent est-ce qu'elle est là parce qu'on veut qu'elle soit là. Quoi.
Et lorsque vous êtes présente, il y a, vous faites un tour des tables, ça fait partie de.
Non,
vous faites pas.
Non. Non, non, jamais.
Bah, pardon, quel intérêt d'y être si que... on vous voit pas.
Mais ouais, mais parce que je sais pas, j'ai toujours eu une grosse appréhension de ça.
Le client voilà. Vous dégoûte?
Non, pas du tout. Par contre, il peut venir dans ma cuisine. Il peut venir dans ma cuisine dès qu'il le veut, dès qu'il le souhaite. Ça, mes collaborateurs les invitent à venir me voir dans la cuisine. Voilà.
Non, Hélène. Un client du restaurant peut dire je veux aller visiter les cuisines?
Bien sûr.
Bah j'ai jamais osé faire ça dans un restaurant.
Et là, du coup, sur le nouveau restaurant de Paris, sur la rue d'Assas, donc qui va réouvrir, vous verrez, hein, les cuisines, elles sont justement très ouvertes.
Oui. Ouais, comme à Gioia aussi.
Hein. Alors, pas sur la salle, parce que c'était pas possible, comme un peu à Gioia. Et pas sur la salle, parce que il y a même carrément une table de 6 couverts au milieu de la cuisine, d'ailleurs, pour ceux qui voudront.
Est-ce que ça, c'est la table du chef qui est réservée pour vous et vos amis, ou est-ce qu'on peut la réserver?
On pourra la réserver. On pourra la réserver. Voilà.
Et est-ce que là, alors, la table qui est au milieu de la cuisine, est-ce que c'est,
comment dire? C'est propre, c'est ça?
Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est viable?
Je sais pas. Je vous assure que mes restaurants sont très propres.
Est-ce que c'est viable? Parce qu'on est au milieu du bruit, on est au milieu des cris.
Alors, sincèrement, je vous dirai ça dans quelques semaines, parce que dans ma cuisine, ça crie pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est une règle d'or.
Parce qu'on a cette image de...
Moi, déjà, on ne m'appelle pas chef. Ça, tout le monde le sait, parce que moi, je m'appelle Hélène et on m'appelle Hélène. Voilà. Et voilà. Mais on va voir. C'est vrai que c'est un gros pari, hein, parce que là, elle est vraiment très proche de la cuisine et tout. Donc, c'est un gros pari. Mais,
C'est le côté un peu cuisine-spectacle aussi, hein. Le lien avec le parallèle avec la télévision.
Après, aujourd'hui, de toute façon, aller au restaurant, c'est plus simplement manger une bonne assiette. Ouais. On veut vivre une expérience. On veut s'en souvenir. On veut de la relation avec ceux qui sont là pour vous donner du bonheur. Et voilà. Donc, ça s'arrête pas à bien manger. On va au-delà.
Alors, justement.
Donc, ça fait partie de l'expérience.
Si vous allez chez Hélène Darroze, mais là, je parle de chez elle, à la maison. Qu'est-ce que vous êtes sûr de trouver dans le frigo?
Du Nutella.
Non.
Dans le frigo, je sais pas, moi je mets, mais je sais pas, j'en mange pas.
Déjà, t'as pas mangé
dans le frigo des œufs, du foie gras.
Déjà, le Nutella, c'est dégueulasse, mais surtout, il faut pas le mettre au frigo.
Du foie gras, non. Qu'est-ce qu'on trouve dans le réfrigérateur?
Des fruits, des
citrates.
Non.
Des produits de beauté.
Non.
Qu'est-ce qu'on me
fait? Ah, c'est pas bête, ça.
Ouais, non.
Un client mécontent.
Non.
Peut-être qu'il cache tout dans son frigo, tu vois, les bijoux.
Non.
C'est un aliment?
Oui.
Du pain?
Ça se mange. Il y a deux aliments qui sont dans le frigo systématiquement.
Du piment d'Espelette en poudre, non, ça se met pas au frais,
C'est pas dans le frigo, mais ça, c'est indispensable.
Piment d'Espelette,
on va dire son péché mignon.
Ah.
Des beignets.
Non.
Et on n'est pas.
Moi, j'étais pas là-dessus.
Et on n'est pas vraiment dans le bio et dans le naturel, ouais.
Des beignets au chocolat.
C'est une pâtisserie.
Non, c'est pire.
Vous en parlez avec les filles.
Non, c'est pas un produit qu'elle a fait.
Du Kuniaman.
C'est un produit industriel, quoi, qui s'achète. C'est de l'agroalimentaire industriel, quoi. C'est du déconseillé.
De toute façon, je l'assume.
C'est du soda, c'est des gros sodas.
C'est de la saloperie.
Mais il y en a plein de
saloperies.
Non, c'est pas vrai.
Des hamburgers.
Alors, c'est pas loin.
La viande.
Non.
Des cordons bleus.
Sucrerie.
Qu'est-ce qu'on met au frigo?
Des donuts.
Non.
Alors, cheesecake. Donuts, vous pouvez. Les Krispy Kreme, j'adore les Krispy. Les Krispy Kreme, il y a.
Cheesecake.
Des Reese's, des trucs au beurre de cacahuète.
Des M&M's.
Au frigo.
Je croyais autre chose, moi.
Mais frigo, des M&M's.
Ah ben non, mais pas au frigo, les M&M's.
Et alors, il y a des M&M's et il y a du Caprice des Dieux.
Et Caprice des Dieux.
Caprice des Dieux, c'est bien, ça. J'avoue.
Mais Caprice. Mais moi, je pensais que vous alliez dire la graisse de canard, parce que c'est vrai, moi, je cuis tout à la graisse de canard. Je croyais qu'on allait sur ce terrain-là.
Mais je suis scandalisé que vous ayez des M&M's et un Caprice des Dieux dans le frigo systématiquement.
Surtout les M&M's au frigo.
Le Caprice. Alors, les M&M's, je les mets pas trop au frigo, mais le Caprice des Dieux, oui.
J'ai
donné
canard.
Le virus à mes petites filles, elles sont addictes. Ben oui, j'aime le Caprice des Dieux. Mais j'adore un bon comté, j'adore un bon osso-irati, j'adore
la chicorée.
Mais voilà, mais c'est.
C'est pas un vrai fromage, le Caprice des Dieux.
Mais non. Mais enfin, c'est pas un vrai fromage. C'est pas un vrai fromage. Moi, je me régale avec le Caprice.
C'est la pause des amoureux. Tu te souviens de cette publicité avec Grégory Fitoussi?
Non, mais d'accord, mais à ce moment-là, tu mets du Babybel.
Cette boîte ovale.
Oui.
Ah non, vous n'allez pas comparer le Caprice des Dieux avec le Babybel.
Alors, je sais pas, avec le Philadelphia, avec le Saint-Mauré, avec des trucs comme ça. C'est fait en usine, quoi. C'est plus...
Ben, oui, mais c'est bien fait. Voilà.
Voilà.
Okay. Bien. Et j'aime ça.
C'était l'Inquisition.
J'aime ça.
Il y a quand même pire comme défaut.
Alors, à l'inverse, si vous recevez Hélène Darroze chez vous à déjeuner, il ne faut surtout pas lui servir
de bio.
Ah, ça, c'est facile. Hein.
De poisson.
De, non. De, on va dire quoi, de produits de, qui pourraient être dans votre potager.
Tomates, non. Choux,
non. Alors, parlons de produits du soleil.
Ah, des produits du soleil.
Aubergine.
Non.
Tomate.
Non. Courgette, non. Produits du soleil.
Non, tomate, au contraire. Elle dit, dans son livre, il y en a, puis elle fait même des bocaux qu'elle garde.
Ah, ouais, les tomates, c'est bon.
Les poivrons,
c'est
les fèves.
Les ananas.
Les ananas.
Non.
C'est un
fruit. Des bananes.
C'est un légume.
C'est un fruit et c'est gorgé d'eau.
Il a hésité.
Il y a un légume
aussi.
Pastèque et melon, ouais.
Le melon, mais il y a surtout le céleri, parce que là, sur Top Chef, céleri, ils m'ont fait des. Ça revient en boucle. Ouais. Ils m'ont fait une émission sur les produits détestés et ils m'ont fait manger du céleri.
Mais les melons, vous avez ça, quelque chose contre
je n'ai jamais pu manger tout ce qui est melon, pastèque, etc. Même l'odeur me fait... voilà. Je ne sais pas pourquoi, parce que je sais que tout le monde se régale avec ça.
Bah oui.
Mais moi, je ne peux pas. Je n'aime pas le melon. Et alors des fois, vous savez, l'été, quand vous êtes reçu chez vos amis et tout, le melon, voilà. Quoi.
Et
des fois, on n'ose pas dire non. Mais...
Potiron,
ah oui, potiron, courge et tout, j'ai aucun souci.
D'accord.
Ah bon. Mais le melon, je j'aime pas du tout.
Et le céleri.
Ouais.
C'est tellement bon,
céleri. Ah mais je sais, mais le céleri.
Mais j'arrive pas non
plus. Alors je peux manger. Et puis, pardon, le céleri, ça peut être.
Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon pour le corps. Enfin, il y a plein de valeurs nutritives dans le céleri.
Non, mais. Je suis désolée.
Ok, caprisier, pas céleri. Ok, d'accord. Allez, dernière question. Après 18 ans. Enfin, à l'âge de 18 ans, juste après son bac, Hélène Darroze était plutôt indécise sur son avenir. Elle s'est inscrite en médecine, en concours de Sciences Po également, prépa HEC aussi, et un autre domaine.
Les douanes.
Non.
Mais comment il sait tout ça, lui?
Un
autre domaine, ouais. À part médecine, à part Sciences Po, prépa, je
sais, carmélite.
Enseignement, pas un fac pour être
non.
prof, non.
Et alors, ça pourrait rejoindre, mais alors, il faut vraiment être vicieux, ça pourrait rejoindre la pâtisserie, et encore. Je sais pas.
Kiné.
Non.
C'est quoi, c'est lié avec...
c'est quoi le lien avec
le malaxage.
Les produits...
Les beaux-arts.
C'est lié avec les...
Ah ouais. Alors, pas loin.
Sculpture. La peinture. Sculpture.
Non, pas loin.
Dessin.
Pas loin.
Archi.
Oui. L'architecture.
Eh oui. J'adorais dessiner des maisons quand j'étais petite. Je faisais des plans tout le temps. Je rêvais ma maison et je les dessinais. J'avais un cahier avec des petits carreaux là, de 1 cm et je faisais mes maisons. Voilà.
D'où ma question sur, en perspective et tout presque en 3D,
Non, pas quand même.
Parce que les petits carreaux, c'est pratique aussi pour faire les perspectives. D'où ma question sur la pâtisserie. Est-ce que construire, structurer, dessiner des gâteaux...
Alors la pâtisserie, c'est pas trop mon truc. Moi, j'ai un complice
qui s'appelle Kirk.
Qui est écossais, qui travaille avec moi depuis 17 ans. Et
qui fait des madeleines, paraît-il, dingue.
Les madeleines de Joya, c'est un bon succès. Ouais.
Donc vous ne dessinez pas, vous ne créez pas vos pâtisseries.
Non, c'est Kirk, tout à lui. Alors,
Mais vous lui donnez quand même des indications, vous lui dites la base, si vous faites un éclair au melon, vous allez vous énerver.
Il a vraiment... là, vous savez, par rapport au melon, quand même, je veux dire une chose, j'ai demandé à mes équipes de Londres de travailler sur un foie gras au melon, en leur disant vraiment ce que je voulais par rapport au melon et tout. On va voir ce que ça va donner. Je vais pas pouvoir goûter ou je sais pas comment je vais faire. Mais
bah oui, ce que j'ai dit.
Je leur ai demandé de... C'est une des rares fois, mais je leur ai dit, je leur ai même dit quel melon je voulais et tout, donc voilà.
Et comment vous avez choisi le melon si vous ne l'avez pas goûté?
Oui, je sais. Parce que je sais que c'est un melon que je...
Vous avez des copains qui vous ont dit oui, c'est un bon plan.
Melon qui s'appelle peau de crapaud, qui est un melon...
Non, c'est appétissant,
généralement, les noms sont moins appétissants. Les pédononnes, tu n'as pas spécialement envie de les goûter. Et pourtant, vous en parlez. Alors, quelle est la différence entre un pédonone et un beignet?
C'est à peu près la même chose. Je trouve le nom plus rigolo.
D'accord.
Et voilà. Sauce au chocolat,
et vous racontez,
ou
beignet aux pommes, et vous racontez qu'il y avait une compétition entre vos tantes.
Mes grand-mères.
Mais pardon, les grand-mères, pour savoir laquelle des deux faisait les meilleurs beignets.
En fait, j'avais ma grand-mère Louise, côté paternel, qui faisait des beignets aux pommes, mais d'un autre monde, quoi. C'était, très, très régulièrement, le dimanche après-midi avec mes cousins, parce qu'on passait tous les week-ends dans le restaurant familial, et on arrivait avec les pommes, et on les disait, est-ce que tu peux nous faire des beignets aux pommes? Elle disait, ok, à condition que vous les peliez. Et puis, c'était jamais assez bien pelé, donc elle finissait toujours par les peler. Mais elle en faisait parce que nous, on était une grande famille, donc on était 20 autour de la table à manger, donc elle en faisait des tonnes. Et puis voilà, et mon autre grand-mère Charlotte, elle faisait plutôt l'épée de nonne, sans le fruit à l'intérieur, mais qui était aussi magnifique, et voilà, lequel on préférait, ben je sais pas.
C'est que de la pâte, c'est que de la friture, on est d'accord. Hein.
Oui, oui. Ça veut dire ça.
Ça veut dire que...
C'est très généreux.
Ça veut dire que c'est bon.
Non,
ça veut dire que ça va dans les fesses, c'est ça.
J'en arrive, ça reste plus longtemps dans les fesses que sur le palais, en tout cas. J'en arrive à ce que votre cuisine est dans la tradition, dans la madeleine justement, la madeleine de Proust, hein, les souvenirs d'enfance, les bocaux.
La cuisine de Gioia, après celle des gastros, c'est...
Même
si la cuisine des gastros vient toujours d'une émotion, de... Voilà, ça part de là.
Je parle de la cuisine de Gioia, oui. Je parle de toutes les recettes que vous y mettez, des histoires que vous racontez. On a le sentiment que la moindre recette, le moindre cookie, dessert, plat, trouve une résonance, un écho dans du vécu.
Oui, tout à fait.
Et on n'est pas du tout, et c'était ça que je voulais dire par rapport au beignet, on n'est pas du tout dans la mode du léger, du fait pour maigrir, du...
Il y a quelques trucs comme ça, mais on est dans la mode du partage et du don de soi et de la générosité, quoi, parce que c'est la cuisine, c'est ça, quoi. C'est un moment de partage autour d'une table. Voilà, c'est une fois de plus, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble, c'est donner du bonheur. Donc
vous ne concevez pas de manger seul dans un restaurant, vous?
Ça m'arrive. Sincèrement, ça m'arrive. À Londres, par exemple, à côté du Connaught. Non, moi, j'en profite pour travailler un peu. Mais ça m'arrive très, très peu. Mais à Londres, ça m'arrive assez régulièrement parce qu'à côté du Connaught, il y a un restaurant japonais que j'aime beaucoup. Et ça m'arrive de m'échapper là une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller manger quelques...
C'est pas un peu bizarre, le chef qui quitte son restaurant pour manger dans un autre. C'est un peu étrange quand même.
Elle fait pas de sushi. Hein,
voilà, c'est parce qu'ils sont super et que c'est juste à côté et que voilà, ça m'arrive. Et que comme il est ouvert un peu tout le temps, ça peut être à 15 heures après le service. Voilà, je vais faire une course et je m'arrête manger.
Non mais par rapport à la notion du partage, à l'inverse, enfin, je sais pas autour de cette table, moi, mais je préfère ne pas manger.
Ah bon?
Ah oui, que de me retrouver seul à une table. Ouais, non, parce que je sais pas. Pour moi, la bouffe, c'est un partage. J'adore les tablés où on est 15, mais c'est d'un coup.
Mais il y a des gens qui adorent aller seul au restaurant. C'est un peu leur moment à eux, c'est leur fête. Ils vont se faire des bons plats.
Moi, c'est moi.
Daniel, toi, t'aimes bien aller seul?
Ouais, j'aime bien aller seul.
C'est la personne qui va avec lui. Mais j'aime pas les gens.
Mais qui paye?
C'est normal.
Mais qui paye?
Je pars en cours. Je pars en courant, Nagui. Tu sais, c'est ce que je fais avec toi quand je suis avec toi.
Mais là, quand on est deux, j'ai compris, mais seul, je dis comment il fait.
C'est bizarre que tu demandes qui paye quand tu sais qu'il est seul au restaurant.
C'était ça la vanne.
On n'explique pas les vannes.
Oublie, Albert. Mais merci d'être là, Albert, c'est essentiel. Voici Jean-Jean Pierre Coff.
Ah, voilà.
Oh. Bande de salauds. Mon cousin Jean-Pierre se serait délecté de ce livre.
Ça va être un succès, on est d'accord.
Oui, un vrai délice pour les yeux et les papilles. Alors, complètement au hasard, au chapitre petit déjeuner, je tombe sur boudin noir fait maison, œuf au plat, condiment au pimientos del piquillo. C'est page 16. Oh nom de Dieu, enfin quelqu'un qui, comme moi, ose le boudin au petit déjeuner. Alors vous, chère Hélène Darroze, il y a une photo, hein, le boudin. Vous le mangez à la fourchette, on la voit là tout en bas. Eh bien moi aussi, mais avant, comme mon cousin, je le trempe dans mon café, le boudin, ou dans mon thé. Bref, Nagui, je comprends pas vos blagues, mais je comprends pas non plus vos réticences ce matin. Et parce que fallait vous entendre, juste avant l'émission, secouer JNB, notre rédac chef, en lui hurlant « Mais qu'est-ce qui t'a pris de programmer cette cuistotte qui fait rôtir des langoustines vivantes après les avoir tranchées à vif dans le sens de la longueur ?» C'est page 132, tiens, regarde la photo, c'est dégueulasse.
Je vais la chercher.
Oh mon maître, c'est la réponse de JNB. Mais ô mon maître en toutes choses, Hélène Darroze est une sublime chef. Hier soir, j'ai essayé son gratin de chou-fleur au stilton. Ah, vu le nez, je peux te dire que t'as forcé sur le chou-fleur. C'était encore meilleur qu'avec du coulommier, mon fromage préféré, celui de mon pays. Cette femme est un génie. Mais tu sais bien que je suis végétarien. Sur 64 recettes de la Darroze, il y en a la moitié avec de la bidoche, du foie gras, du lapin, du poisson, des poulpes. Dire que je vais devoir mouiller la compresse de cette bouchère. Voilà, voilà, chère Hélène Darroze, comment se mitonne la bande originale. Dans l'atrophie du goût, la haine des régimes carnés et le mépris de la très grande cuisine. Alors pour vous consoler, je vous donnerai bien le secret de ma recette de tête de bébé phoque fondant et croustillante pomme rainette rôtie. Bah c'est comme votre tête de cochon de lait, page 67. Regardez la tête du... Là, il y a la photo du cochon. Comme il est joli. Bon, mais alors moi, faut juste bien déglairer la tête de phoque, un bébé phoque pris vivant si possible, avec un embout d'acide. Aspirateur. Mais comme je sens que Nagui brûle de vous régaler avec ses questions fourrées aux bonnes réponses prédigérées, je vous laisse. Bonne émission.
Merci. La bande originale. Nagui sur France Inter.
Oui, c'est comme les vannes, quoi. C'était dedans, c'était pas la vanne.
Bah,
écoute, je vais pas me gêner. En plus, tu me tacles derrière. Mais t'es fou.
Ça s'appelle de l'assaisonnement.
Non, ça s'appelle déjà écrit. Joya, ce livre, en effet, fait une place belle, mais ça me permet de le préciser, fait une place belle aux poissons, aux viandes, aux graisses naturelles. Enfin, vous êtes vraiment dans cette tradition-là. Ça me permet de me racheter aussi l'image du végétarien qui est tolérant aussi avec ceux qui aiment ça, espèce de salopard. Mais ces traditions dont vous parlez, qui vous ont été transmises, vous les améliorez, vous les modifiez. Qu'est-ce qui vous pousse à l'excellence? Et d'abord, quelle est la direction de l'excellence?
Alors, qu'est-ce qui me pousse à l'excellence? C'est juste l'envie de faire plaisir, quoi. Voilà, c'est juste... je peux me sentir trahi.
Mais deux personnes n'ont pas les mêmes plaisirs.
Oui, puis ouais, mais bon, après, voilà, c'est sûr que je ne pourrais jamais servir quelque chose que je n'aime pas. Ça, c'est clair.
Donc
quoi,
le melon,
donc,
foie gras,
ouais,
enfin,
que j'aime pas. Je veux dire, dont je suis pas fière, que ouais. Donc que je,
d'accord.
Voilà,
je
pourrais pas.
Donc premier critère, il faut que ça vous plaise, ah ouais, que vous en soyez fiers.
Et sincèrement, quand un de mes collaborateurs ne respecte pas ma recette ou ça peut arriver, voilà, fait un peu les choses par-dessus la jambe parce que voilà, pour plein de raisons, je me sens trahie. C'est pour moi, c'est comme un couteau de
est-ce qu'une
planté
recette...
dans le dos. Je vous promets.
Est-ce que c'est mathématique une recette?
Non,
est-ce...
pas dans la cuisine.
Alors. Comment voulez-vous que deux mains différentes ne fassent pas, enfin fassent le même
parce
plat
que, parce que aujourd'hui mes collaborateurs, en tout cas les proches, ils connaissent ma sensibilité, ils connaissent mon goût et voilà, c'est pas mathématique dans le sens où il y a pas
la pâtisserie, c'est mathématique.
La pâtisserie, alors là, ouais. Entièrement d'accord. En tous les cas, ouais. Moi, avant que Kirk arrive dans ma vie professionnelle,
votre pâtissier.
Voilà, moi, je faisais une et c'est elle était intéressante aussi. Je faisais une pâtisserie de cuisinier avec beaucoup de fruits rôtis, de choses rôties, de choses plus. Voilà, c'était une autre façon de voir la pâtisserie.
Le caramel naturel venant voilà. Du sucre des fruits. C'est ça.
Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, je lui demande à Kirk là sur la rue d'Assas qui va réouvrir de revenir un peu à ça, de réintroduire un peu ça, parce que lui, c'est vraiment le pâtissier. Mais alors, c'est vraiment une pointure. Hein. Mon ami Pierre Hermé a même avoué qu'il y a des desserts qu'il dit j'aurais aimé les inventer. Donc,
joli comme compliment.
C'est Pierre d'ailleurs qui a fait qu'on s'est rencontré avec Kirk. Voilà. Mais oui, la cuisine, voilà, c'est aussi un peu de feeling, etc. Et les personnes qui sont autour de moi.
Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que votre moteur, c'était de faire plaisir. Donc d'offrir, de partager des idées, des goûts, en se basant sur une structure traditionnel ou un savoir-faire ou justement des recettes séculaires. Mais comment les faire évoluer? Comment avancer? Comment dire on va faire une nouvelle manière de faire quelque chose que vous avez l'impression déjà de connaître?
En se remettant en question en permanence, en travaillant beaucoup. Je bûche, quoi. Il y a des moments où je me retrouve.
Il n'y a pas de nouveaux produits. Enfin, si, à part le yuzu qui est sorti d'un chapeau il y a quelques temps.
Qu'est-ce que c'est?
Un citron vert amer.
Mais
délicieux.
Après, si on regarde, quand je vois la cuisine de mon grand-père des années 60-70, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué dans les techniques d'abord, mais aussi, en effet, le yuzu, mais même la coriandre. Mon grand-père, il ne savait pas ce que c'était la coriandre, même l'huile d'olive, voilà quoi.
C'est
à la fin de sa vie qu'il a commencé à connaître l'huile d'olive. Je veux dire,
c'est vrai qu'il y a des produits.
Il y a quand même, ça évolue beaucoup.
La mozzarella, on a l'impression que c'est un truc qui. Maintenant, il y en a partout de la mozzarella.
Oui, mais
maintenant, c'est la burrata.
Mais ça n'existait pas
il y a 10 ans.
Moi, quand je suis arrivée chez Alain Ducasse, c'était. Donc en 90, par là, dans début des années 90, l'huile d'olive, on la trouvait pas sur toutes les tables du monde, quoi. Hein. Je suis désolée, on l'a trouvée, oui, au Louis XV, parce que voilà, il a été celui qui d'ailleurs a fait le piment d'Espelette.
Moi,
quand je suis arrivée à Paris, le piment d'Espelette, personne n'en parlait, quoi. Ouais. On n'en trouvait pas, on savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, on en trouve partout. Donc, bien sûr que ça continue quand même à évoluer dans le produit aussi, quoi.
Alors, est-ce que vous allez chercher des produits, justement, hors de nos frontières, ou est-ce que vous vous attachez à votre région, le Pays Basque?
Je m'attache pas. C'est vrai que beaucoup de mes produits viennent quand même du Sud-Ouest. Bon, surtout à Joya, ça c'est clair. Après sur les restaurants gastronomiques aussi, mais peut-être un peu moins. Aujourd'hui quand même, je m'attache à une chose, quoi. Hein, c'est que je m'attache aussi à une production de proximité, quoi. Je pense qu'il faut que quand même on ouvre tous les yeux là-dessus.
Donc se servir de produits locaux qui ont généralement
pas trop voyagé.
Alors le problème de Paris, c'est que il faut quand même aller loin. Non, mais normalement les produits locaux, c'est une centaine de kilomètres. Pour Paris, on tolère 200.
En tous les cas, moi, mon prochain projet, mon prochain rêve, on va dire, quoi. Voilà, si je pouvais avoir à l'extérieur de Paris un jardin qui m'appartienne, où je fais pousser ce que j'ai envie, et tous les matins, ou tous les deux matins, en tout cas, quelqu'un qui m'amène ce qu'on a planté, produit, etc. C'est jouable, bien sûr.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de prise en compte aujourd'hui dans les recettes, dans la cuisine, de l'élément un peu santé, c'est-à-dire de veiller à réduire le sucre, le gras au maximum, tout en donnant du plaisir, quoi.
Mais ça, le sucre, par exemple, c'est même pas y travailler parce que c'est. Ouais, voilà, nos desserts à nous sont pas trop sucrés.
Donc, quand je vois la recette des madeleines, elles ont l'air superbes, mais
le pain perdu.
Parce que c'est à l'huile d'olive.
Le pain perdu.
Ah oui, le pain perdu, c'est.
Il y a deux sucres.
Et puis le pain perdu, c'est une recette du Pays Basque espagnol, c'est le torreja.
Ah là 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 là, mais celui-là, mais comment.
Et attends, il y a le pain perdu salé aussi, au parmesan reggiano et la truffe du Périgord.
Ça a l'air tellement bon.
Ça, c'est bon.
Le travail sur le sucre, on avait beaucoup parlé avec Christophe Michelac quand il était venu là, c'est vrai que c'est délicieux quand même, mais il y a beaucoup moins de sucre, énormément moins.
Oui, voilà, on sucre moins, on met moins de matière grasse, on fait une cuisine. On va toujours vers la légèreté.
Et là, dans vos recettes, quand c'est de la crème fraîche, c'est de la crème fraîche épaisse, il y a du mascarpone, mais ça donne envie,
Mais après,
s'il y en a qui défend ça, c'est moi.
Attendez, Joya, ça désemplit pas, quoi. Je veux dire, il faudrait pousser les murs, quoi. Donc, cette cuisine qui réconforte, qui parle à tout le monde, on en a aussi besoin. Mais attention, c'est pas une cuisine grasse non plus, quoi.
Très appétissant.
Et puis, c'est pas tous les jours. Et puis, il y a des. C'est pas tous les jours, mais pour certains, je peux vous dire que c'est tous les jours. Je vous promets que le midi, c'est dingue, quoi, parce qu'on a ça tourne tous les.
C'est plus des clients, c'est des actionnaires,
presque. Sincèrement, mais parce qu'on a besoin de cette cuisine qui réconforte et surtout qui parle à tout le monde. Le pain perdu, ça parle à tout le monde. On a eu une tante, une grand-mère, une expérience dans son enfance où on a mangé du pain perdu et on a besoin de ça aussi
Hélène,
aujourd'hui.
Vous nous avez dit tout à l'heure que demain ne faisait pas la même recette, y compris dans vos propres murs. Et comment nous, en suivant vos conseils dans ce livre de recettes, on peut arriver à le faire?
Elles sont pas compliquées, bah, c'est sûr.
Je parle pas de compliquées, je parle d'arriver au goût que vous avez
en tête. Vous arriverez
à
un goût un peu différent, et puis vous arriverez à quelque chose de bon, parce que c'est des bons produits, et parce que vous allez y mettre de l'amour, et parce que voilà. Voilà, alors bien sûr, hein,
je peux mettre tout l'amour que je veux, ça va jamais ressembler
aux photos. La tête de cochon, hein. Avant de se lancer dans le boudin ou la tête de cochon, on attend un peu, quoi, parce que c'est pas facile. Mais il y a des recettes qui sont toutes simples, et même le pain perdu au parmesan, hein, c'est pas compliqué, c'est pas, voilà.
Sauf que là, il faut, enfin, pour le pain perdu, vous proposez de faire la brioche aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas uniquement l'acheter toute faite.
J'ai pas marqué qu'on pouvait l'acheter, non?
Non, mais c'est pas grave.
On peut l'acheter, une bonne brioche, voilà.
Oui, on peut l'acheter, là.
On peut l'acheter, et puis même, vous savez, au-delà de ça, moi, le pain perdu, ma grand-mère, elle le faisait avec le pain rassis. Ouais. Voilà.
Normalement, c'est ça.
Hein. Voilà, bien sûr que c'est ça.
D'où le nom, c'est pour pas jeter le pain ou le récupérer.
Et je me régalais.
Il y a une recette que je sais faire, c'est le spritz. J'ai trouvé. Voilà. Page 97.
Ils sont tous en train de lire le livre.
Ou le Guinness.
Il vous faut de l'armagnac de mon frère pour faire le spritz. Attention, dans celui-là, il faut.
Aux éditions Cherche Midi, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. C'est Joya, des recettes par Hélène Darroze. Un peu gras, un peu sec, ça dépend des moments. Voici Guillaume Guise.
Salut les amigos.
Oui,
alors il m'est encore arrivé une sottise. Alors il y a pas longtemps, 5h du mat, je sors de boîte avec une amie comme ça, genre on était déglingués mais genre vraiment sale quoi, et je dis à Leïla, viens on fait quoi? Et Leïla elle me dit ouais nanani nanana, je sais pas quoi, nouveau dealer, machin, je sais pas quoi, Benoît Magimel, enfin un truc incohérent. Incohérent là comme d'hab, et j'ai fait non, tu sais bien ce qu'il en pense Nagui, jamais de cocaïne après 17h et tout. Il fait ouais, t'as raison, il faut penser longévité. Et c'est ça que j'aime bien avec Leïla, elle a un côté tox, mais tu peux la raisonner. Et là, elle me dit oui, vas-y, gros, viens, j'ai faim, viens, on tape un McDo. Et là, je fais ouais, Leïla, bien joué et tout. Autant parfois, je comprends pas tes questions, autant là, t'as touché mon cœur. Sauf que sur le chemin du McDo, je me rappelle que ça fait un an que je suis animique, que je suis végétarien. Et pardon, je confonds toujours. Et j'étais vraiment deg. J'avais tellement envie d'un burger. Vraiment, là, je suis rentré chez moi, j'ai mangé un radis. Et franchement, c'est ce qui est arrivé de plus triste en Europe depuis l'attentat sous Baptiston. Vraiment, j'ai tenu le coup. Au moins, j'ai tenu le coup. Vous savez qu'un tiers des végétariens, à vous, quand ils sont bourrés, ils mangent de la viande. Un tiers.
Ah ouais?
Ouais, c'est des gens, ils se réveillent. Je crois que c'est vrai. Il y a une étude qui est sortie là-dessus. Un tiers des végétariens avouent qu'ils ont mangé de la viande bourrée. Et c'est des gens, ils se réveillent et ils sont brisés. Et ils sont dans la honte. Et ils appellent leur mère. Ils font, maman, cette nuit, j'ai craqué. Dis quoi, t'as encore appelé ton ex? Non, j'ai mangé un cheese. Ernesto, pourquoi? Et ça m'a réfléchi. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, vous savez quoi? Les grands oubliés de la gastronomie mondiale, eh bien, c'est notre communauté. Les végétariens alcooliques. Absolument. Absolument. Ah, il y en a pour tout le monde. Ah oui, les intolérances, je suis allergique aux assiettes plates, et moi je digère pas hyper bien le riz quand il est en grain, tu comprends, enfin tu vois, mais nous, hein, c'est pour ça que je voulais vous profiter de la présence d'Hélène Darroze.
Bah oui.
Hélène, je sais que les végétariens alcooliques c'est une cause humanitaire, allez, c'est peut-être moins vendeur médiatiquement que le sida ou la mauvaise mine, mais vraiment, il n'y a rien pour nous Hélène, il n'y a rien, sauver nos fins de nuit Hélène, créer un truc végétal gras et goûtu, un truc où quand tu sors de boîte déchirée, tu te fais, comment j'ai trop envie du kebab brocoli pistache d'Hélène Darroze, vraiment, oh là là, je vais en mettre partout. Le gras, c'est la vie. Ça pourrait être une belle épreuve de Top Chef, en plus, non? Hein, Philippe Etchebest bourré, Jean-François Piège bourré, vous bourré. Et la voix off qui fait, avec leur kebab végétarien, les candidats réussiront-ils à convaincre nos chefs étoilés qui en sont déjà à leur 7e bouteille de pastis? Hein, vraiment? Avec Michel Saran qui fait, oh là, je trouve un petit peu décevant ta saucisse de chou de Bruxelles dans son hot dog revisité à la mâche, mais il n'y a pas le croquant. Je suis toujours aussi nul en accent du sud. Je sais, mais ça, il y a un marché à prendre. Hélène, ça existe déjà les burgers végétariens, ça existe, mais en général, soit c'est des vieux steaks de soja fatigués, là, soit c'est des burgers avec un gros champignon, mais dégueulasse, qui te donne envie de crever dans un panari. Sérieux, ce champignon-là, il goûte comme dans un soulier de Daniel Morin. Et comment je sais que ça a le même goût? Les stagiaires, ça parle, ils parlent entre eux, les stagiaires, et puis les informations reviennent. Sauf que là, dans le Missouri, Burger King, ils ont testé un Whopper.
Je vais partir.
Ah ouais, un double Whopper.
Un Whopper 100% végétal. 100% végétal. Un Whopper du Burger King, leur truc, leur hamburger, un faux steak haché qui imite exactement le goût de la viande, la texture de la viande, l'odeur de la viande et la couleur de la viande. Il y a même une petite vache qui te fait, oui, je vous promets, ça vient de moi. J'ai beaucoup souffert quand on me l'a enlevé. Et vraiment, et ils font ça en collaboration avec une entreprise qui fait des trucs de ouf, vraiment. Genre, ils font des faux ananas avec des pieds de porc et tout, des moules avec du reblochon. Tu dis, mais comment ils font? Et j'adore l'idée de rester végétarien en retrouvant enfin le goût de la viande, quoi, quelque part. Moi, si c'est pas un animal qui est dans le burger, c'est pas très grave. J'ai jamais mangé un hamburger en me disant, ah, on fait moins la valise, non, jamais. C'est qui le patron? C'est Sapiens. Non, je me suis jamais dit ça. Non. Le seul problème du Whopper 100%, le seul problème du Whopper 100% végétal, c'est qu'il coûte $1 de plus, quoi. Voilà. Et tu te dis, bah, comme il a le goût de la viande, la texture de la viande, l'odeur de la viande et la couleur de la viande, je crois qu'on peut pas exclure l'hypothèse qu'en fait, c'est peut-être vraiment de la viande et qu'ils le font juste payer $1 de plus. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, Hélène. Allez, bonne émission, les amis.
France Inter, Maggie, la bande originale.
Alors il y a un concept, hein, il y a un truc à créer. Hélène.
Non mais ceci dit, ça existe. Il y a des restos à Paris qui font des burgers. Non, qui font des burgers végétariens.
Ouais. Complètement. Mais c'est vraiment. J'ai l'idée que c'est la texte, c'est vraiment le steak haché, mais qui est reproduit mais avec du végétal, quoi. Donc ouais. Cette espèce de truc croustillant quand ça grille, etc.
Non mais c'est une très bonne idée. Et puis quand les personnes ne savent pas que c'est pas de la viande et tu les fais goûter,
ils pensent que c'est de la viande. Et voilà, moi je me suis toujours dit tant qu'à faire,
c'est mangeant de la viande.
Ah oui. Non,
c'était pas ça la chute.
La prochaine fois on va là, Guillermo.
Voilà. Joya, vous expliquez que l'important aussi dans votre dans la chaîne de travail du concept de vos restaurants, ce sont les producteurs. C'est de savoir d'où viennent les produits. On en revient d'ailleurs, que ce soit de la viande, des légumes ou des confitures ou de la farine. Vous voulez savoir d'où ça vient. Vous ne voulez pas acheter d'une manière industrielle.
Non.
Non, mais la farine, par exemple.
La farine.
Vous n'allez quand même pas chez un meunier choisir votre farine.
Pour faire le pain, oui. Ah bah, c'est évident, oui. On travaille sur la farine, oui.
Non, je me disais qu'à un moment donné, vous avez bien acheté des trucs.
La farine pour faire des biscuits.
Chez Métro.
Pour faire des biscuits, pour la pâtisserie, on fait attention quand même, mais voilà. Mais pour faire le pain, oui, il faut sélectionner la farine.
Bah oui,
c'est clair,
enfin.
Quoi. On est en train de faire tout un travail sur ça, justement.
C'est-à-dire?
Ben de,
tout un travail.
Vous goûtez,
On choisit des farines, oui. On en prend, on fait des tests et on voit ce qui nous va le mieux par rapport au pain qu'on veut faire.
Est-ce que par rapport à cette tendance du moment, alors il n'y a pas que les végétariens qui peuvent être casse-pieds dans un restaurant, il y a aussi ceux qui ont des exigences ou des contre-indications, le gluten et ainsi de suite.
Moi, ça fait longtemps que je m'y suis mis parce que à Londres, c'est arrivé plus tôt qu'à Paris.
On est d'accord, et tous les médecins s'accordent à le dire. Ceux qui prétendent être allergiques au gluten sont plus nombreuses que ceux qui sont réellement allergiques au gluten.
C'est une tendance.
C'est trop. On est d'accord, c'est trop.
Exactement.
Mais vous êtes obligé quand même de suivre ça et de mettre sur votre carte
On a du pain sans gluten. Hein.
Obligé.
Il faut l'avoir, oui.
En même temps, c'est pas grave.
Aujourd'hui, si on l'a pas, on peut se faire rudement engueuler.
Mais c'est logique. À partir du moment où on estime qu'un endroit doit être accessible à tous, quand on est par exemple en fauteuil, pas en fauteuil, c'est aussi logique dans un restaurant.
Exactement. Moi, c'est quelque chose que je respecte tout à fait. Hein. Alors là, je peux vous dire. Et voilà. Alors, la première tendance qui est arrivée, c'est d'être végétarien, ça c'est sûr, ou vegan, hein, parce que ça va plus loin encore. Et puis après, il y a eu le gluten, et puis il y a les religions. Hein.
On vous demande de la viande cachère halal, ou en tout cas,
Non, mais par contre, pas de porc, pas de crustacés, oui, ça c'est évident. Mais il faut faire attention, oui. Enfin, il faut faire attention.
Ce n'est pas
la majorité de nos clients.
Mais
il n'y a pas un service sans qu'il n'y ait pas des restrictions alimentaires dues à des allergies ou dues à certaines croyances. Ouais. C'est évident.
Et quand on est dans des, comme vous, étoilés, avec une clientèle bien particulière, est-ce que... Comment vous faites pour faire croire à chaque client que vous le connaissez, que vous le reconnaissez, que vous savez exactement ce qu'il aime et ce qu'il veut pas?
Il y a un truc dans les restaurants. D'abord,
Connote.
Alors là, je vous raconte tous les secrets. Hein. Bon, d'abord, on a un fichier. Un fichier client. Dès que quelqu'un vient, on consigne tout. Dès qu'un client vient,
il est pris en photo.
Non.
Vous savez ce qu'il a commandé.
Alors il est pris en photo. Non, il est pas pris en photo. Par contre, toutes les réservations sont ce qu'on appelle googlisées, c'est-à-dire qu'on va sur Google pour tout nombre de réservations pour voir s'il y a des choses à savoir ou pas. Si on a une photo.
C'est dingue ça.
Bah ouais, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc faites une petite enquête sur la personne
pour mieux servir.
Ouais, mais de toute façon, c'est dans les standards du Conote, quoi. Je veux dire, je n'ai pas le choix. C'est quelque chose qui m'est imposé par le Conote, mais auquel j'adhère complètement et que d'ailleurs on va faire à Paris aussi, parce que voilà, parce que s'il y a des choses à savoir. Alors,
le gars qui est venu et qui vous a demandé un steak saignant, vous le notez sur la fiche. Il revient un an après et au moment où il recommande une viande,
est-ce que vous lui demandez
Monsieur Magin, vous voulez toujours saignant ?
Ouais, oui. On est censé le savoir. Alors après, c'est surtout plus sur des choses de ce qu'il aime pas, de s'il prend de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Si c'est plus, mais oui.
Il doit être touché d'être.
On est normalement dans l'obligation. Enfin, mes collaborateurs sont normalement dans l'obligation par rapport aux standards du Conote de les accueillir en disant bonjour Monsieur Schmitt, bonjour Madame Harper.
D'où on googlise.
Même s'il s'appelle pas Schmitt et Harper.
Oui, moi, je suis allé au Conote, il m'a dit bonjour Monsieur Schmitt. C'était très bizarre.
C'est bizarre. Hein.
Et à Mélanie, on dit Madame Harper aussi. Pareil, c'est très.
Madame Harper, c'est encore plus bizarre.
Mais moi, tous les jours, je reçois, parce que je veux le savoir moi aussi, puisque mes collaborateurs doivent le savoir, je reçois l'affiche avec des photos.
Les trombinoscopes, un peu de la.
Il ne peut pas y avoir un problème avec la commission informatique et liberté ?
Non, c'est des infos qui sont en ligne.
Tu peux dire c'est un suivi clientèle.
On n'engage pas
les
services secrets. Ouais. Hein, c'est juste des infos.
Vous vendez pas ces informations à qui que ce soit. C'est juste pour le suivi et le bien d'un client.
Non, mais je dis ça commence comme ça, mais on ne sait pas où ça va. C'est tout ce que je veux dire.
Non, on peut faire confiance à Hélène Darroze pour ça. Et les saisons. Alors comment, que ce soit à La Joya ou dans les autres restaurants, vous suivez les saisons? Parce que
là, on les suit un peu aristocratique. Enfin, pas justement, un peu dans tous les sens, quoi,
la
tomate, moi je suis désolée, on attend le mois de juillet. Voilà, je suis
désolée. On peut pas manger une tomate en janvier chez vous.
Ah non, alors surtout la tomate. Moi, la tomate, c'est certainement mon légume-fruit préféré. J'ai été élevée à la tomate.
Légume-fruit préféré.
J'ai été élevée à la tomate. Sincèrement, mon grand-père, il ne concevait pas de repas sans tomate. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait lui? Comme en plus, il avait son jardin et que ça donnait beaucoup de tomates parce qu'il adorait ça. L'été, il faisait des conserves. Moi, je me souviens, la cave du restaurant de mon grand-père.
Des bocaux.
C'était qui n'était pas stérilisé, parce qu'il mettait la pulpe de tomate, ou la sauce, ça dépendait de comment il faisait, ou des fois des tomates entières, et il recouvrait de graisse, d'huile en fait. C'était ça qui faisait l'isolant. Voilà, exactement, quoi. Et je vous promets, c'était tapissé de ça, parce qu'il adorait tellement la tomate que on mangeait ça aussi l'hiver, mais c'était de la conserve faite de cette manière-là.
C'était
pas une tomate fraîche.
D'autant que l'été, dans un potager, il y a trois fois trop de tomates par rapport à ce qu'on peut en consommer. Donc, il y a un moment, il faut aussi les garder et les recycler.
Et voilà, mais moi, j'ai été élevée à ça. Donc, je vous promets, un été, il y avait de la tomate partout. Les tomates farcies, je me souviens, c'était un truc de...
Justement, on va parler un tout petit peu musique et famille. En 67, vous écoutiez...
Ah non, j'écoutais pas.
Dans les années 60, vous êtes née...
Il est désagréable.
Peut-être qu'à la maison, on écoutait...
Voilà, c'est ça. C'est ce que je... En tous les cas, c'est une chanson que j'adore et je me dis que peut-être que mes parents l'écoutaient, il faudrait que je leur demande.
Et comme on parle de la famille, on va revenir à l'arrière-grand-père qui a ouvert une auberge à Villeneuve-de-Marsan. C'était en 1895 dans les Landes, à une vingtaine de kilomètres de Mont-de-Marsan. Et c'est un établissement qui a été ensuite repris par votre grand-père et votre grand-mère, et puis par votre père. Donc finalement... toute la famille Darroze était avec les conserves de tomates.
Et oui.
Et votre fille a envie de faire des ateliers de cuisine aussi?
Ah oui, alors Kitri, elle est arrivée en début d'année, elle me dit « Maman, je suis sûre que tu vas me dire non ». Je dis « Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux aller à l'atelier cuisine de l'école ?» Je dis « Mais bien sûr enfin, !» Voilà, elle avait peur que je lui dise non. Mais celui qui, pour l'instant, adore la cuisine et a vraiment des vérités pour ça, c'est Baptiste, mon petit neveu. Il a 14 ans, il est un peu plus grand que mes filles et il aime beaucoup cuisiner.
Et vous n'allez pas les dissuader?
Non.
Au contraire, non, vous seriez touché que la...
Ouais, après, voilà, il faut leur dire que c'est pas un métier facile, hein. C'est, voilà, il faut leur dire. Moi, quand j'ai dit je veux être cuisinière, papa m'a dit ok. Je pense qu'il était un peu déçu parce qu'il attendait. Enfin, c'est même pas je pense, il voulait que ce soit mon frère. Mais il m'a dit ok, juste une chose, tu vas travailler quand les autres s'amusent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre.
C'est une belle formule, ouais. très belle formule. Ouais. 95. Alors, je viens de dire, c'est la sonnerie portable de Daniel Morin, mais c'est aussi une chanson.
C'est pour ça que j'ai mis la main à la poche tout de suite.
Je vous rappelle quoi, ça, Gigi l'Amoroso?
Ces années-là, c'est les années où je faisais beaucoup la fête. Voilà, j'étais dans les Landes, donc j'étais revenue chez papa, dans le restaurant familial. Et je travaillais beaucoup, mais je faisais aussi beaucoup la fête. Et je sais pas pourquoi, avec ma bande de potes, à un moment donné dans la soirée,
il y avait toujours
on chantait toujours Gigi l'Amoroso. Voilà, donc voilà, c'est pour ça, ça me rappelle ça.
Il y a un peu de travail quand même aussi.
Et oui, vous reprenez l'auberge familiale. Voilà. Et c'est les premières récompenses aussi dans votre carrière qui arrivent à ce moment-là, Hélène. Vous êtes élue jeune chef de l'année par le guide Champérard et grande demain en 96 par Gomio. Ça, tout d'un coup, c'est une incitation à continuer, à se dire, ça tombe quand même assez vite.
Oh, c'est pas les récompenses qui m'ont incité à continuer. C'était surtout que j'aimais ce que je faisais d'abord. Ça, c'était important.
Mais ça apporte une notoriété aussi à l'établissement.
Oui, mais voilà. Et puis, surtout, je voyais des gens heureux quand je cuisinais. Donc, c'est ça qui m'a incité à continuer aussi. Mais
On sait malheureusement que certains chefs soit vivent mal, soit font carrément des dépressions lorsqu'ils perdent des étoiles, ou il y a un problème de connaissance ou de reconnaissance. Comment se protège par rapport à cette notation de TOC et autres étoiles?
Moi, ça m'est arrivé à Paris quand je suis partie à Londres. Ça vous aide à vous protéger, justement, parce que ça fait du mal. Alors, personnellement, moi, c'était surtout par rapport à une équipe qui s'est sentie responsable, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partager mon temps entre deux restaurants et quand j'ai vu comment... voilà. Donc, on prend du recul en se disant je reviens à cette notion de bonheur. Je suis désolée parce que, voilà, notre métier, c'est pas d'avoir des étoiles, même si attention, hein, quand on les a, on est bien content, c'est toujours, enfin voilà, je veux dire, je vais pas cracher dans la soupe le jour où on m'a annoncé que j'avais deux étoiles au Connaught, ou deux étoiles à Paris, j'étais super heureuse, hein, je dis pas ça,
Voilà, vous seriez capable de dire c'est pas grave?
C'est pas chaud, la fin du monde, en
tout cas. J'en sais rien, mais en tous les cas, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rendre des gens heureux, ça, c'est clair. Et puis, beaucoup plus qu'il y a quelques années, en tout cas, je suis beaucoup plus mature par rapport à ça. Je vais pas vous dire, hein, au début de ma carrière, ça comptait énormément. Et quand on a eu deux étoiles, on s'est dit, et pourquoi pas trois, etc.
Ce n'est pas possible.
Non, plus c'est pas possible. Aujourd'hui, moi, j'en suis beaucoup revenue. J'ai aussi des réalités économiques et quand on est chef d'entreprise et que moi aujourd'hui c'est à peu près une centaine de personnes qui travaillent avec moi, peux vous dire que on est avant tout intéressé à ce que le client soit heureux. Et surtout que le restaurant soit plein, que les gens reviennent. Et alors certainement les étoiles contribuent à ça. Hein, oui. C'est évident. Mais quand même, moi aujourd'hui ma principale préoccupation aujourd'hui, c'est déjà prendre du plaisir dans ce que je fais et être moi-même, du coup, parce que ça, c'est hyper important. Donc des fois, on se pose trop des questions en se disant qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir deux ou trois étoiles, etc. Donc moi, ça fait longtemps que je ne me pose plus la question et que je cuisine comme j'ai envie, comme ça sort de moi. C'est rendre des gens heureux pour qu'ils reviennent et que voilà. Et puis surtout, c'est équilibrer un bilan à la fin de l'année, quoi.
On va parler avec vous, François-Régis Gaudry. Merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Rédacteur en chef adjoint et critique gastronomique à l'Express. Vous animez l'émission On va déguster sur Inter le dimanche matin de 11 à 12. Et très très bon aussi sur Paris Première.
Oui.
C'est ça. Programme chargé. Vous, d'ailleurs, le dimanche prochain, c'est quoi le programme? Ça va faire plaisir à Hélène Darroze.
Le sushi, je crois que t'adores ça. Hein.
J'adore la cuisine japonaise.
Mais le sushi en tant que vraiment objet gastronomique, presque artistique, quoi, la quête esthétique du sushi.
D'accord. Donc c'est ce dimanche, hein, 7 oui. avril, que ça passera. Hélène, on parle avec elle depuis le début sans souligner, parce que moi ça m'agace un peu ce côté... Vous êtes une femme et vous êtes chef et vous êtes une femme chef incroyable. Parce que c'est encore un problème d'être et femme et chef.
Il n'y en a pas beaucoup surtout.
Oui, et surtout il n'y en a pas beaucoup évidemment. Hélène Darroze est une des rares exceptions dans un paysage gastronomique français et mondial qui est quand même assez... testostéroné, assez masculin, dominé par des chefs dans tous les...
Mais est-ce qu'il y a un pourquoi ?
Le pourquoi, c'est que les habitudes et les schémas sociaux auxquels on est habitué, les stéréotypes sont vraiment durs à déboulonner, en fait. Elle est là, la réalité.
On et peut avant considérer tout dans la tête des femmes. Et avant tout dans la tête des femmes. Moi, je veux pas parler de misogynie, de machisme, parce que ça, j'y crois pas du tout. C'est d'abord nous,
Je crois qu'il y a en effet un conditionnement social qui fait que lorsqu'une femme veut embrasser la carrière de chef, dont on sait que c'est un métier très harassant, chronophage, qui oblige à faire des sacrifices, on voit moins ses enfants le soir, on travaille souvent le week-end, etc. Lorsqu'un homme s'engage évidemment dans ce genre de carrière, on dit c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est très bien, il va aller chercher des étoiles. Quand une femme fait ce choix, il y a tout de suite un truc super suspect.
Elle va sacrifier sa femme,
va délaisser sa famille.
Voilà, c'est la question, c'est Ségolène Royal qui va garder les enfants.
Ouais, mais c'est un peu cette idée-là. Donc il y a évidemment encore beaucoup de femmes qui se censurent, qui s'auto-censurent en quelque sorte pour s'engager dans ce métier. Mais il y a quand même une réalité, c'est que, et j'ai apporté un livre qui le prouve parce qu'il a été rédigé par une de mes collaboratrices, Esther El Payani, que tu connais bien, elle est journaliste à Télérama et elle a écrit un livre avec Ferran Frediani qui est en fait un guide de toutes les femmes chefs qui existent en France, 500 femmes qui font la différence. Le titre d'ailleurs c'est Chef, et ça permet de signaler au passage que l'écriture inclusive est passée par là et que chef est un mot qui s'est féminisé. Moi-même, en tant que critique gastronomique à l'Express depuis 2005, le mot chef, s'agissant d'une femme, quand j'écrivais sur un restaurant qui était tenu par une femme, j'écrivais cuisinière. Je n'osais pas écrire chef parce que le mot féminin n'existait pas.
Moi, c'est ce que je dis. Hein. Je déteste qu'on m'appelle chef déjà. Je déteste ça et puis je dis je suis une cuisinière.
Voilà. Bien sûr.
J'ai plus de facilité à dire cuisinière que chef.
Je n'assume pas la question que je vais poser, mais est-ce qu'il y a une cuisine féminine, une cuisine masculine ?
Non, moi je pense pas. Enfin, selon d'anciens stéréotypes, on pourrait dire qu'il y a des cuisines qui sont plus franches, avec des goûts plus puissants, qu'on pourrait, selon d'anciens schémas, qualifier de plus masculines, et puis des cuisines qui sont davantage sur une forme de sensibilité, d'inspiration, et qui seraient donc davantage féminines.
Donc on va pas genrer la cuisine.
Non. Oui, et puis en réalité, si on fait l'expérience là, d'avoir un chef qui vous fait déguster à l'aveugle une assiette, bien malin celui qui arrivera à identifier le sexe de l'assiette. C'est-à-dire que moi je suis incapable, et pourtant je fais ce métier depuis un moment, je vais 8 fois au restaurant par semaine, en goûtant un plat, de dire si c'est un homme ou une femme qui vous l'a cuisiné, c'est impossible. La réalité c'est qu'il y a une bonne cuisine et une mauvaise cuisine, et que la bonne et la mauvaise cuisine peuvent être faites indifféremment par des hommes et
des femmes. Exactement, et Daniel a raison, comme la musique. Est-ce que on en parlait avec Hélène, on a évoqué aussi la venue dans cette émission, que ce soit de Jean-François Piège, de Christophe Michalak, Hélène faisant un peu le contre-pied de Jean-François Piège qui enlève de plus en plus de gras dans sa cuisine, de Michalak qui enlève de plus en plus de sucre dans sa cuisine.
J'espère que j'ai pas une cuisine stéréotypée grasse, parce que je pense que...
On peut la qualifier de généreuse, ce qui est un compliment.
Joya, c'est de la bistronomie, et oui, c'est, voilà. Après, sur les cuisines gastronomiques, je crois que... Je crois qu'on est tout dans la légèreté, dans le...
Voilà, c'était ça la question. C'est, est-ce que justement il y a vraiment une tendance qui répond à des critères culturels, sociaux dont parlait tout à l'heure Guillermo ? Est-ce qu'il y a une tendance au niveau des grands chefs à changer leur cuisine ?
Bien sûr. Il y a une préoccupation santé évidemment. Ça on le voit dans l'équilibre alimentaire. Les chefs s'orientent aussi de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même des porte-paroles qui sont très médiatisées, vers une gastronomie éco-responsable. C'est-à-dire qu'en gros, toi la première, mais beaucoup d'autres s'orientent évidemment.
Producteurs locaux.
Ça devient un impératif. Vous avez raison, les producteurs locaux. Et puis plus globalement,
c'est pas ça le premier qui puise dans son propre potager.
Effectivement, ses légumes qui sont évidemment cultivés super naturellement, de façon biologique. Mais c'est vrai que c'est important aussi. C'est l'agriculture du vivant, et les chefs deviennent des porte-paroles d'une agriculture différente, beaucoup plus éthique, qui tourne le dos au modèle productiviste qu'on connaît depuis les années 50.
Est-ce qu'il y a des chefs qui viennent pousser Hélène Darroze et les autres grands chefs des épaules en disant faites-nous une place, nous aussi on existe. Il y a une génération qui arrive malgré le jeune âge.
Il y a une génération qui arrive, elle est très forte. Ouais. Et donc cette génération, pour revenir à la problématique de départ,
qui sont en train de créer eux-mêmes, bien sûr, avec les émissions.
Il y a surtout, et ça se voit, parce que le verre à moitié plein aussi, c'est qu'il y a quand même des femmes qui s'expriment de plus en plus, qui prennent la parole. Il y a aussi des femmes qu'on sort surtout de l'angle mort médiatique, parce qu'il y a aussi une paresse. Il faut faire une autocritique du côté de la presse gastronomique, de pas aussi aller voir des femmes qui existent vraiment. Et aujourd'hui, dans le paysage et dans ceux qui font la vivacité et l'énergie gastronomique, et notamment à Paris, il y a, je peux vous citer 3, 4, 5 femmes. Il y a Alexandra Montagne, qui est une chef brésilienne formidable, qui a un tout petit bistrot rue Clisson, qui s'appelle Tempero. Ça fait 40 mètres carrés. C'est une femme extraordinaire, qui a un charisme dingue et qui fait une bistronomie un peu exubérante, matinée d'influence brésilienne. C'est délicieux, avec des plats végétariens, beaucoup d'ailleurs, assez peu de viande et peu de poisson. Marion Fleury, qui est la chef du Mermoz dans le 8e arrondissement, juste à côté de l'Elysée, un petit bistrot. Elle a été formée par notamment Pascal Barbeau et quelques autres grands chefs parisiens. Elle fait un boulot extraordinaire.
Et en dehors de Paris ?
Et en dehors de Paris, vous en avez, il y en a vraiment partout. Là. Non, mais franchement, il y en a vraiment partout. Ouais, d'ailleurs, ce bouquin, sincèrement, ouais. Les 500 femmes qui font la différence.
À Marseille, il y a une ancienne candidate de Top Chef qui s'appelle Colline.
Oui, voilà,
bien sûr. Elle est super.
Colline. Elle est super, ouais. Aussi.
Qui s'appelle, pardon, j'ai pas entendu, à Marseille ?
Colline Folquier.
D'accord.
Oui, absolument.
Alors là, elle réouvre son restaurant. Voilà, mais elle est super. Elle est vraiment.
À Marseille, vous avez aussi Julia Samut, qui tient l'idéal, ouais, qui est, ouais, une table d'hôte formidable, ouais, avec des influences méditerranéennes. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Enfin, voilà, les femmes s'expriment.
Est-ce que je peux me permettre de dire, parce que François-Régis Gaudry, vous l'entendez, vous le lisez, vous le suivrez donc dimanche prochain parler des sushis. Il l'a dit qu'il allait donc...
Fait que par des hommes d'ailleurs. Il n'y a pas de maître sushi, pas de maîtresse, vrai, sushi, là, j'en connais pas.
Pas encore, ça va venir. Espérons que ça vienne. Donc je voulais simplement dire, vous allez 8 fois au restaurant par semaine.
Oui, à peu près, ouais.
Et vous êtes maigre comme un clou.
Voilà. Mais en fait, après c'est des
natures.
Quand on travaille beaucoup, on brûle. Non. Et puis j'ai un truc que je fais beaucoup, mais c'est pas tellement. Je vomis. Une espèce, ouais, de...
je tremble beaucoup.
C'est que je suis un grand marcheur. En fait, je marche beaucoup.
Très bien. Ah oui.
Voilà,
très bien.
Flâner à Paris, c'est la gastronomie de l'œil.
Oh joli. Oh. Manger, bouger.
On va rester là-dessus.
Sur Inter dimanche, donc de 11h à 12h cette semaine, sur les sushis. Merci François.
Merci. Merci.
Et j'adore la voix de François Régis. La vôtre aussi, elle est pas mal, Tanguy.
Oui.
Mais je préfère celle-là. Et vous êtes un homme heureux.
Bah oui, j'ai besoin de rien pour être content. Moi, votre compagnie à tous, par exemple, c'est que dalle. Hein, et pourtant, ça me remplit de joie. Mais il y a un homme, Tom Enders, patron d'Airbus, qui a besoin de plus pour être heureux. 36,8 millions d'euros. C'est son cadeau de départ du groupe. Ses collègues, à la base, étaient partis sur une montre Swatch. Pourtant, mais...
On en parle après les infos. C'est la originale, parce qu'il en reste. Ouais. Avec Léna, que nous vous l'avez dit. Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Alter Abdou.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Guillaume Auguste. Et notre invité, Hélène Darro.
Bravo, bravo.
J'ai faim.
Joya, ouais, c'est vrai que ça donne faim.
C'est l'heure.
Les photos,
faut pas faire ça, Hélène.
Moi,
qu'est-ce
que ça a l'air. Bon. J'ai lu en
plus. Je pourrais lâcher la page. Bah,
d'ailleurs, tu l'as fait
chocolat.
Tout à l'heure, c'est ridicule.
En lisant votre livre, on a faim, on a envie de manger.
C'est l'essentiel.
Quels sont les conseils essentiels que vous nous donneriez, parce qu'on a chacun, on s'est dit ce week-end, on va faire ci, on va faire ça, pour réussir votre recette.
Aller au marché, commencer par ça.
Premier truc.
Voilà. Ah bah oui.
Le bon produit.
On ne peut pas faire de bonne cuisine sans bon produit.
Ok.
Voilà. Donc ça, c'est voilà. Prendre un peu de temps quand même, parce que la cuisine, ça prend un peu de temps.
Il y a deux, trois trucs que vous proposez de préparer l'appareil.
La veille.
Ouais.
Oui, parce qu'il faut que ça repose.
La brioche, les madeleines.
Voilà. Ouais. C'est mieux. Mais voilà. Mais voilà, il faut un peu de temps pour faire de la cuisine.
Il faut s'autoriser. On peut louper.
Mais bien sûr. C'est bah attendez, il y a des gâteaux, voilà. Il y a des gâteaux
qui viennent d'erreurs
et donc il faut pas abandonner à la première
non,
heure
mais en disant, bien sûr que non.
j'ai raté mon truc.
Mais bien sûr que non.
Après, on n'a pas besoin d'appareils particuliers, de machines extrêmement modernes pour
sincèrement,
réaliser
pas dans les recettes que je veux, voilà. que je propose, voilà. Et mais après, surtout, il faut pas se prendre la tête. Il faut commencer par faire simple et puis aller un peu plus compliqué. Et voilà, vous savez, un bon poulet rôti, c'est pas très compliqué quand même. Et
dans
et
vos
ça
recettes,
régale,
elles sont toutes illustrées de superbes photos. Ouais. La présentation aussi est importante, non ? Là, un petit peu de couleur,
oui,
un petit peu de déco, non ?
Oui, enfin, moi, bien sûr que bien sûr que la mise en assiette, c'est important, mais voilà, en même temps, moi, je suis pas de celle qu'il faut dire attention à tant de centimètres, on met un point comme ça, on fait ci, on fait ça. Non, moi, je dis, on fait un peu comme ça arrive.
Même
quoi.
Votre assiette, ouais, même le plat de moule, on a l'impression que c'est structuré, que c'est une architecture.
Ouais, un peu trop, parce que sincèrement, à Joya, on le sert pas comme ça. C'est vraiment les moules qui sont.
Elles sont bien rangées.
Je trouve, ça me ressemble pas trop, et en fait, c'est mes collaborateurs qui ont fait la photo, et ils ont voulu être hyper tac.
C'est un petit peu frimeuse, ces
moules.
C'est un peu poseuse,
elle a dit, ça ne me ressemble pas.
Ah ouais. C'était.
le pain perdu, ça ressemble.
Tu sens qu'il est honnête, le gars. Ouais. Tu sens qu'il est honnête, le pain perdu.
T'as envie de l'accueillir.
Tu sens qu'il est sympa, qu'il
le
a pas
croque
de
monsieur aux deux fromages.
Ouais, ça c'est pareil. C'est des pousses au crime, les photos.
Et ça vous dites que le croque monsieur, c'est votre sandwich préféré?
Oui, j'adore le croque-monsieur.
Avec le caprice de Dieu, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais deux fromages, c'est pas ça. Hein.
Non, c'est quoi ? C'est
Comté-Gruyère.
Comté-Gruyère. Oh, deux fromages. Et le pain du croque-monsieur doit être un pain de campagne ?
Moi, c'est ce que je préfère. C'est ce que j'aime. Après,
une tranche bien épaisse.
Ouais, c'est ce que je préfère. Moi, mes petites filles, elles préfèrent avec le pain de mie. Donc, on peut aussi faire avec du pain de mie. Mmh. Mais un bon pain de mie, voilà.
Bien épais, parce que l'épaisseur, la matière est importante.
La texture, c'est toujours important.
Joya, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. C'est Hélène Darroze. C'est un nouvel établissement qui se trouve à Paris, dans le cœur de Paris, au Sentier, rue des Jeuneurs. Mais c'est aussi, surtout, un livre de recettes pour avoir chez vous cette possibilité de manger comme une et de cuisiner comme une grande chef.
De tenter.
Qui est Hélène. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'on recommence. Ouais, ouais. On recommence. Et puis après, on peut se les faire à soi. C'est-à-dire moduler un tout petit peu, changer la recette pour s'y approprier.
Bien sûr, après il faut toujours mettre un peu de soi, un peu de son histoire, un peu de ses émotions.
Ça n'existe pas le droit, la propriété intellectuelle d'une recette.
Je crois pas.
Parce que le mec qui a inventé le croque-monsieur, lui, il serait milliardaire. Mais
ça n'existe pas.
Ça n'existe
pas. On
ne peut pas déposer une recette.
Alors que lui a déposé son texte, c'est tant qu'il passe.
Ça, c'est il l'a déposé.
Tanguy, s'il vous plaît, dites-moi qui est ce Tom Enders dont on parle beaucoup.
Eh bien, Nagui, c'est un Allemand qui aujourd'hui est patron d'Airbus, le constructeur aéronautique. Ce sont ces personnes qui haïssent l'humanité. Un jour, elles sont réunies, on dit les mecs, comment faire souffrir le genre humain? Il y en a une qui a dit, on diffuse Maître Gims dans les avions. Les autres ont répondu, non, quand même, les passagers vont péter les hublots pour sortir. A aussi été évoqué le fait de ne proposer durant le film que 5 films. Taxi, Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4 et Taxi 5. Mais ça a été jugé contraire à la convention contre la torture votée en 2015 à la sortie du film Aladdin avec Kev Adams à l'UGC de Créteil. Ils sont donc tombés d'accord sur le fait de laisser seulement 19 cm de longueur aux gens pour foutre leurs jambes. Ce qui fait qu'Adriana Carambeu, par exemple, est obligée avant chaque vol de se faire amputer au niveau du genou. Puis une fois arrivée, le docteur d'Abdelaziz Bouteflika les lui recolle, comme il l'a fait avec son patient entier déjà 24 fois. Bref, Tom Enders, c'est un loup aux dents longues. Si Johnny l'avait croisé son vivant, il l'aurait foutu sur un t-shirt. Alors, il a dirigé la branche armement de ADS. Alors, ne jouons pas les hippies, il nous faut des armes. Hein, sinon, on montre à Kim Jong-un que c'est lui qui est la plus grosse. Il a déjà une super coupe de footballeur, il ne doit pas avoir tout. Hein, c'est un principe. Enders, en 2013, a été sacré patron le plus performant par le magazine Challenge. Le moins performant cette année-là étant Didier Sanchez, patron du bar tabac Le Chiquito à Nevers, qui par 7 fois dans l'année était à court de chipster. En 2012, Enders est devenu patron d'Airbus, c'est un winner. À la rédac de BFM Business, on se caresse en pensant à lui. Et puis c'est un libéral, un vrai, sans pitié. Il souhaite la création en Allemagne d'emplois faiblement payés pour mieux intégrer les migrants. Je pense qu'au fond, il souhaiterait que ces gens-là rémunèrent leur employeur, à condition, ce n'est pas un monstre, que celui-ci leur assure un travail 7 jours sur 7, de 6h à 23h. Un pause café à 15h, à ce moment-là, les migrants vont à la machine et font couler le café du patron. Après, contre 10 euros, ils ont le droit de poursuivre leur journée de travail. Bref, Tom Enders, comme tous les grands patrons, n'a pas de passion fulgurante qui occupe sa vie. Les timbres, il s'en fout, le bondage, ça le branche pas, l'horticulture, il n'a pas le temps. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est normal, faire des avions, c'est pas ouf. Hein, d'ailleurs, même quand il était enfant, les avions en papier, ça l'ennuyait. Il préférait les cocottes en papier. Mais une fois adulte, a réalisé qu'une poule transportait quoi? Une personne à la fois, et encore sur 5 mètres. Et il fallait la bourrer de médicaments pour qu'elle y arrive. Donc, il s'est rabattu sur les avions. Par conséquent, alors qu'il s'apprête à quitter Airbus, ses collaborateurs lui ont demandé « Tom, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau de départ ?» Il pensait à une Smartbox, séjour en yourte, hein, pour vivre comme dans Rendez-vous un terrain inconnu, mais sans avoir à se taper la tribu un peu lourde. Mais Enders a répondu « Non merci, j'aime autant avoir 36,8 millions d'euros. »
Ce qui donc s'appelle un parachute doré.
Oui, et les gens qui sont dans le business, je pense notamment à Jean-René, mon oncle, qui est chargé de clientèle à la Banque Postale de Lannion, vous diront « C'est normal, en 9 ans, le dividende d'Airbus a augmenté de 650%. Il a fait s'enrichir les actionnaires. Au moment de le quitter, les mecs, c'est humain, bah, se disent qu'une cagnotte litchi, ça ferait un peu rapia. Seulement, les salariés du groupe, eux, expliquent que leurs salaires sont gelés et qu'Enders a fait virer 15 000 personnes. Donc, les 36,8 millions d'euros, ils les ont là. Hein, bon, c'est pas très radiophonique, mais je monte ma gorge. Et puis, Bruno Le Maire, Nono, notre copain qu'on a à Bercy, bah, il se bat contre les rémunérations excessives des grands patrons. Parce que l'opinion a l'impression que les 10 gros patrons de France encaissent le pactole, alors que c'est faux. J'ai compté, ils sont 11. Hein, tandis que les types qui assemblent les avions, eux, végètent. Et moi, quand je prends l'avion, je m'en tape de l'actionnaire. Je pense à l'ouvrier qui a vérifié un par un tous les boulons, en me disant, j'espère que ce jour-là, il était à ce qu'il faisait, que sa femme l'avait pas quitté le matin même, que son chat n'avait pas sauté toute griffe dehors sur son fils. Oui, j'ai peur en avion, hein, presque autant que quand je reste au sol. Et puis, c'est une question de morale. Personne dans le monde ne vaut 37 millions d'euros. Ni un footballeur, ni un patron du CAC 40, ni Bono du tout, surtout que leur dernier album, bof. Hein. Et puis, en plus, avec, mettons, 1 million, bah, on vit tout aussi bien. On peut zapper la carte scolaire et éviter pour ses gosses les écoles où il y a des gens d'autres couleurs. On part en vacances 2 fois l'an, alors forcément, on fait plus attention, hein. On prend que 14 fois de la langouste par jour au lieu de 27. Bah, on se prive un peu, mais de la frugalité naît le plaisir. Regardez le pape François. Une paillasse, un savon et 10 paires de pieds de gens pauvres, plus un pied seul, un mec d'un pays en guerre qui a sauté sur une mine. Il a pas l'air heureux? Si, il l'est. Et lui ne palpe pas 36,8 millions d'euros. L'argent n'est rien, comme me l'explique Laurence Bloch, directrice de France Inter, à la fin de chaque saison quand il s'agit de négocier le contrat de la suivante. Alors voilà, il va partir, Tom Enders, avec 37 millions, mais est-il heureux? On en a vu passer dans cette émission des acteurs très riches, mais brisés. Hein, bon, en fait, j'ai pas d'exemple, mais il doit y en avoir. Alors peut-être, au moment de son départ, aura-t-il une pensée pour les salariés d'Airbus? Parce qu'un ouvrier, ça reste toujours plus indispensable qu'un actionnaire. Et ça, je me le dis pas uniquement quand je prends l'avion.
Merci Tanguy Passion.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Joya, le livre de recettes au Cherche Midi signé Hélène Darroze. J'ai pas compté, mais il y en a tellement, on se demande que à quel moment on va pouvoir réussir à tout faire.
Et
tout y est, c'est vrai. Tout y est, du petit déjeuner jusqu'à après le dîner. Le tea time y est également. Les recettes, on l'a dit, de madeleine, de croque, mais de choses un peu plus élaborées, plus recherchées. Vous faites la part d'ailleurs. Il y a beaucoup de d'anecdotes personnelles entre la tradition, ce que vous avez appris, ce que votre famille vous a transmis, ça c'est très 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 important, mais justement, quelle est la part de nouveauté? Qu'est-ce que vous apportez? Comment vous l'apportez? Au moment d'une création.
Après, il y a la tradition, bien sûr, ce que j'ai appris dans mon enfance, et puis après, il y a les voyages, il y a les rencontres, et c'est tout ça qui se mélange, quoi. Hein, et les créations, c'est toujours un souvenir, de toute façon. C'est toujours un souvenir qu'on a envie de... voilà, par exemple, il y a ce plat qui s'appelle le retour d'Hanoï. Moi, beaucoup savent que j'ai adopté 2 petites filles à Hanoï, et sur le premier voyage où donc c'était une révolution dans ma vie, hein, parce que je suis allée chercher ma petite fille, je suis devenue maman, et c'est ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie. Et pendant ces 15 jours où je suis restée au Vietnam avec mon bébé, en attendant que tout se fasse au niveau administratif, tous les jours, tous les soirs, j'allais tout le temps dans une espèce de petit boui-boui derrière l'hôtel où je mangeais le pho vietnamien, ce plat emblématique du Vietnam. Et quand je suis rentrée, j'ai voulu travailler là-dessus, parce que c'était quelque chose de tellement jouissif pour moi que voilà. Et donc voilà, ça c'est de partir du feu. On est arrivé sur ce plat qui s'appelle le retour d'un œil que on peut faire avec du homard, que on peut faire avec des carabineros quand je suis à Saint-Sébastien et que je me suis que voilà que j'ai mis à.
C'est ça la nouvelle cuisine d'ailleurs, c'est de s'inspirer de toutes les cultures mondiales avec les éléments, les recettes, les ingrédients en tout cas locaux.
Alors. Pour moi, en tous les cas, c'est s'inspirer de ce qui vous touche, quoi, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous parle.
On peut goûter le retour d'Hanoï sans forcément avoir vécu le Vietnam ou connaître ou avoir cette émotion.
Oui, mais vous me parlez de la création, c'est pour la création, c'est une émotion.
Voilà.
Et moi, quand j'entendais François Régis qui parlait de cuisine, enfin qu'il n'y avait pas de cuisine masculine féminine, je suis assez d'accord, mais je pense quand même qu'il y a une démarche qui est assez différente, je pense que nous, les femmes, on cuisine, justement, on va chercher nos émotions, on cuisine pour eux, alors que les hommes cuisinent un peu plus pour démontrer quelque chose. Voilà, je pense que ça se...
Encore
voilà.
Le truc de coq, quoi,
mais,
c'est-à-dire.
Ouais, voilà. Vas-y. Mais ça n'empêche qu'il y a des chefs cuisiniers, quand j'en pense à Michel Braque...
Qui ont une sensibilité quand même.
Ouais. Hyper féminine. Ouais. Voilà, c'est ça. Et comme il y a des fameux chefs qui sont très dans la technique et dans la démonstration, etc. Et tout ça est légitime et tout ça est respectable et toutes les approches sont respectables. Mais
donc
pour
c'est
moi,
une question
en tout
de
cas,
caractère.
Ma vision de choses dans caractère. La création, ouais. C'est d'aller chercher ce qui m'a touché.
Et vous avez besoin... Oui, pardon.
Non, je t'en prie.
Non, je me demandais, vous avez besoin de créer un plat très très souvent ? C'est-à-dire qu'il faut...
De se remettre en question, oui, assez souvent. Mais alors attention, il faut quand même de la technique, hein. Et j'ai de la chance justement d'avoir moi des techniciens autour de moi qui sont beaucoup plus dans... Qui mettent de la technique que sur mes émotions, quoi.
Oui, et puis il faut faire attention entre ne pas non plus trop changer vos cartes, les habitudes et ce que les clients aiment chez vous et apporter de la nouveauté.
Bah, ouais, je sais.
Vous pouvez pas tout changer
ouais,
tout
je
le
sais
temps.
Que, je sais qu'il y a des, on nous réclame des plats encore. Je dis non, je peux plus. Mais en même temps, quand ils sont bons, voilà.
il faut assumer.
C'est comme un chanteur et les standards.
C'est ça. Vous avez un tube, vous avez un succès. Au moment des rappels, sortez le plat qu'au moment des rappels. Comme ça, c'est tranquille. Daniel Morin, on voit avec ce que vient de dire Hélène Darroze et ce que l'on a dit tout à l'heure avec François-Henri, une femme chef, c'est pas forcément un handicap, forcément un boulet, au contraire. Il est temps que, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, on arrive à une totale parité, fini le machisme, le mot féminin d'ailleurs comme masculin, faut les oublier. La cuisine n'a pas de sexe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi.
Je m'étouffe. Ah, j'ai un saucifleur dans la gorge, de la choucroute dans les yeux, je vais crever. Leïla, saute-lui dessus à pieds joints jusqu'à ce que ses yeux explosent et que ses testicules les remplacent. J'en peux plus. Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'ouvrir le ventre, arracher mon foie, le couper en tranches et puis, dans une poêle chaude dans laquelle j'aurai versé un filet d'huile d'olive, je ferai saisir les tranches de foie pendant 2 minutes. Puis, je retournerai les tranches et finirai de les cuire pendant 2 minutes également. Puis, mes tranches de foie, je les réserverai. Dans la même poêle, j'ajouterai un morceau de beurre, puis les échalotes. Je ferai suer pendant 1 minute, je mettrai les tranches de mon foie, je les déglacerai avec 3 cuillères à soupe d'eau et de vinaigre balsamique. Je les mangerai et là, normalement, je devrais crever. Vous avez cru à mon suicide auto-cannibale, hein, bande de fous ! Mais jamais je n'oserais faire ça. Déjà parce que je suis douillet, et aussi, et malheureusement, parce que mon foie n'est plus comestible depuis longtemps. Ou alors flambé, hein ? Vos mièvreries me bouleversent de chagrin et de honte, monsieur Guy ! Et qu'être une femme, c'est pas un handicap, gna 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 gna, et que chef est un mot féminin, gna 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 gna, et que la cuisine n'a pas de sexe, gna gna gna. Mais fermez-la, bordel ! Fermez-la ! Chef Darroze, s'il vous plaît, passez-moi de la farce, du fil, une aiguille, que je farcisse ce chapon de la sous-culture radiophonique ! Et qu'est-ce que vous y connaissez réellement à la cuisine, hein ? Même si je dois reconnaître que, vu votre train de vie de milliardaire russe, vous avez sûrement une vague idée de ce qui est bon. Alors, il est vrai que vous êtes fruité comme un éclair de Christophe Michalak, vous êtes fondant comme un macaron de Pierre Hermé, mais vous êtes con comme un nugget de Père Dedu. Hein ? Si vous voulez vraiment connaître une expérience culinaire extrême, si vous voulez, en vous asseyant à la table, si vous voulez connaître le frisson de ne pas savoir si vous allez sortir de l'établissement vivant ou mort, eh bien n'ayez pas peur, vous venez à chaque bouchée, ce sera les larmes qui viennent inonder vos yeux, les enzymes qui viennent ronger vos dents, le système digestif dans son ensemble qui se disloque. Venez avec moi tenter l'aventure de la cantine de Radio France. Ouais, cette cantine qu'on appelle au royaume de la gastronomie la roulette russe. Une bouchée sur 6, tu meurs. Il est là, le vrai challenge culinaire, il n'est pas ailleurs. Désolé, monsieur Guy, mais une fois de plus, force est de constater que vous avez encore dit
n'importe quoi.
Absolument.
France Inter, la bande originale. avec Nagui.
En tout cas, je fais partie de ceux qui ont eu le privilège de goûter la cuisine d'Hélène Darroze et de m'être régalé avec cette cuisine, parce que ce que vous n'arrêtez pas de dire et ce qui peut être pris comme une espèce de leitmotiv marketing, le plaisir, le partage, le plaisir, vous le donnez. Voilà, je vous le dis dans le blanc des yeux.
Merci,
de ce côté-là, c'est une réussite indiscutable. Vous parliez tout à l'heure de votre côté chef d'entreprise, c'est-à-dire avoir plus d'une centaine de personnes sous votre responsabilité. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il y a de plus dur, trouver des personnes qui vous suivent dans une aventure, en qui vous avez confiance et qui, à chaque maillon de la chaîne, pourraient finalement détourner votre but ou le rapport que vous avez avec la clientèle?
Bah si, alors il faut d'abord les trouver, et puis une fois qu'on a trouvé, il faut transmettre et savoir déléguer, et c'est pas ce que je sais peut-être de faire le mieux, hein, parce que c'est
pas...
Ah, déléguer, c'est j'ai mis du temps à savoir déléguer, moi. J'ai vraiment mis du temps à savoir déléguer. Et je sais pas si je sais bien le faire encore, mais...
Géographiquement, vous êtes obligé de le faire.
Oui, oui. Ah ben, ça, c'est sûr. Hein, c'est ce que je dis. Hein, avec 3 restaurants maintenant,
il y a,
comme vous disiez tout à l'heure, une chance sur 3. Hein, donc, c'est sûr qu'à un moment donné... Mais au début, si vous saviez la culpabilité que j'avais, et ça peut me reprendre d'ailleurs de temps en temps, mais quand j'étais à Paris et que j'étais pas à Londres, j'étais dans un état de culpabilité. Et c'est Alain Ducasse qui m'a dit, attendez, là, il va falloir grandir, hein, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver.
Et grandir, maintenant, ça voudrait dire quoi pour vous? Parce qu'on a l'impression que vous avez les étoiles, les restaurants, la reconnaissance, la notoriété, vous transmettez, vous êtes dans Top Chef, on a légèrement entendu le générique. T'as pas encore un petit bout de générique pour nous faire du bien? Parce que Morin parlait dessus, donc on l'entendait pas super bien.
Tu préfères le générique?
Sans toi.
Ça me dégoûte. Ce mec me dégoûte.
Entre toi et la musique, ouais.
C'est de la musique.
Cette popularité donnée par cette émission, qu'est-ce qui vous ferait encore plaisir dans votre carrière, dans votre vie? Je parle pas de votre vie privée, ça ne nous regarde pas, mais dans votre vie professionnelle.
Ah, j'ai plein de choses en tête. Hein. J'ai encore plein de choses en tête. Voilà, je vous ai parlé de mon potager, là, hein. Voilà. Et après,
Ça peut être que en France, pardon, à Londres, comment vous allez faire?
Ah, on en a parlé, et le Paddy, ce monsieur extraordinaire qui est propriétaire du Connaught, mais aussi de la Villa Lacoste ici en France, il a sauté sur l'idée, il a dit mais c'est génial, il dit surtout que c'était vraiment la tradition londonienne il y a très longtemps d'avoir, je sais plus comment il m'a appelé ça, son carré de jardin hors de Londres, et de voilà, donc je pense que
il va
à Londres, ah ben, peut-être plus vite qu'à Paris, parce que moi il faut que je trouve les finances et tout, pour le Connaught c'était un peu plus facile, donc je pense qu'on risque
faut
de
trouver des finances et le jardinier aussi, parce que
et le jardinier, c'est bah vrai, oui. C'est vrai. Et après l'autre rêve que j'ai dans la tête aussi, c'est des grands mots que tout le monde emploie en ce moment, hein, mais bon, c'est donner aussi un peu plus de sens à ce que je fais tous les jours, et notamment dans des actions un peu plus humanitaires, et voilà. Et moi, j'ai le rêve de ça existe déjà. Je en regardant, en travaillant, il y a déjà des exemples dans le monde, notamment à Londres ou ailleurs, à Copenhague, d'où je reviens. De faire un restaurant où je ferai travailler des gens qui voilà, des réfugiés qui sont en manque de leur culture et qui voilà, où on arriverait du coup à leur donner un peu d'indépendance et puis de dignité, quoi, tout simplement, quoi. Donc j'ai commencé à en parler avec notamment mon ami Shekeba Hashemi, qui est présidente d'Afghanistan Libre, et ça, ce serait un truc vraiment un bel aboutissement si j'arrive à faire un truc comme ça
pour le faire en France.
Oui,
à Londres,
en France, ouais.
C'est génial comme idée. Revenez nous en parler, ou dites-nous ce qu'on peut faire pour vous aider,
écoutez,
aussi.
C'est les prémices.
Non, mais je suis sûr.
Mais ce serait vraiment.
Je suis sûr qu'en lançant l'idée comme ça,
c'est certainement la chose dont je serais.
Vous pouvez réunir facilement des.
Oui, j'ai pas de problème.
Des aides en soutien populaire aussi.
Il faut trouver des lieux, mais tout ça. Voilà, on commence à travailler et on va continuer à bien travailler là-dessus.
Cette générosité qui est votre signature, qui vous caractérise. Merci.
Quand tu cherches des mots. moi, je suis là pour les donner.
On l'a. N'oubliez pas les paroles.
C'est ça.
Dans cette générosité que vous portez dans votre cœur, dans votre regard, vous la transmettez dans votre cuisine aussi. Et c'est ça qui fait du bien. Merci, Hélène.
Merci
en tout
à
cas,
vous,
merci,
hein,
merci. C'est au Cherche Midi. Ça s'appelle Joya. Et si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. On a peut-être des excuses à présenter avant.
Toujours. Désolé déjà pour vous, Nagui, qui ce matin a été chahuté, bousculé, traumatisé, mentalement tambouriné, en découvrant grâce à Hélène Darroz un nouveau mot. Intégrité. Ah ouais, notamment dans le choix des produits. Eh ouais, mon petit brigand sarrasin, ça existe. Oh, tu t'en remettras vite. Tu te remets de tout. Désolé pour Hélène Darroz dont le rapport à la cuisine diététique et à la bonne santé a été clairement présenté comme absent. Vous êtes un salaud, Nagui. Moi, perso, j'adore votre vision de la gastronomie, Hélène. Je passerai déjeuner tout à l'heure à 13h. Je serai en compagnie de Nagui, enfin de sa carte bleue. Désolé pour Hélène Darroz dont la carrière, la réputation, l'histoire et l'avenir ont été salopés pendant une heure et demie d'émission ce matin. Nagui, vous êtes un fumier. Moi, perso, j'aime tout chez vous, Hélène. Je passerai dîner ce soir à 21h, mais cette fois avec la carte vitale de Nagui.
Merci Hélène, portez-vous bien, embrassez vos filles.
Ah, merci, à très bientôt.
Et jouez aux cartes avec elles.
Oui, le trou du cul, c'est ça. Ah, mais j'adore le nom, là.
Ok, bon, ça c'était en antenne, tous, on n'avait pas dit en antenne.
C'est vrai?
Et c'est rapport à un jeu, c'est un truc, voilà, c'est ludique, hein,
non,
c'est pas
va,
du tout.
Maintenant, on va le dire, maintenant que vous l'avez dit à l'antenne, on a parlé hors antenne d'un jeu de cartes qui s'appelle le trou du cul, qui est connu, et qui s'appelle également président. Et j'aime, mais finir sur ce mot-là, Hélène, j'étais obligé de préciser, voilà. Trou du cul.
Associé président à trou du cul, alors qu'on va compter dans la campagne électorale des européennes.
Philippe Bertrand, vous connaissez le trou du cul, le jeu de
pas du tout. C'est d'une vulgarité.
Et le pédonone?
Oui, non plus. Et la cuisine n'a pas de sexe, alors là, c'est complètement faux. Le maître queue, c'est quoi?
C'est à tort. ce sont les queues de la casserole.
Ah oui. Ouais. En tout cas, j'ai faim, merci.
Ouais, bonne émission, Philippe.
Salut les amis.